Les podcasts du Collège de France, biologie.
La question clé du rôle de l'apéline dans le système cardiovasculaire chez l'adulte. Avant de débuter cela, je voudrais simplement vous dire que l'apéline m'a fasciné, si fait que j'avais de façon un peu gourmande proposé trois nouveaux peptides vasoactifs pour cette année, à savoir apéline, adrénoméduline qui nous intéresse aussi à plus d'un égard, et puis l'urotensine parce qu'il y a une molécule qui a été développée, qui a été jusqu'en phase 2 en clinique et qui malheureusement n'a pas survécu au premier test. Et c'est toujours très intéressant de savoir ce qui se passe et pourquoi. Donc je vois que nous terminerons certainement l'apéline la semaine prochaine, ça c'est clair. Je ne suis pas sûr de démarrer l'adrénoméduline. En revanche, la semaine prochaine, j'aborderai ce que je n'ai pas pu aborder jusqu'à présent, le rôle de l'apéline dans le système nerveux central et d'autre part, le rôle intéressant que peut avoir l'apéline dans le métabolisme intermédiaire. C'est en tout cas des données qui émergent et qui valent la peine d'être étudiées. Voilà. Donc, dans le système cardiovasculaire chez l'adulte, pour résumer très simplement ce que les Américains appelleraient le take-home message, on pourrait dire que l'apéline a un puissant effet inotrope positif direct, in vitro et in vivo, un effet cardioprotecteur dans plusieurs modèles expérimentaux, et que naturellement l'apéline a été très étudiée dans la science cardiaque chez l'homme, qu'on a mesuré les taux d'apéline, qu'on a mesuré aussi dans les tissus cardiaques les taux d'apéline et de son récepteur, et que les résultats sont franchement contradictoires. Bon, sur le plan vasculaire, nous savons, je viens de vous le montrer, que l'apéline est un hypotenseur puissant, médié par la production de NO, en tout cas en grande partie. C'est un vasodilatateur artériel et veineux, ce qui n'est pas banal, mais la vasodilatation dépend de la présence d'un endothélium intact. Ça, c'est un des points importants. C'est un des points importants d'ailleurs pour ces autres peptides que je ne pourrais pas discuter, adrénoméduline et urotensine. Et je pense qu'à la fin de tous ces cours, j'aimerais bien récapituler si oui ou non, l'apéline est en quelque sorte un anti-angio 2 endogène, naturel, physiologique, un anti-vasopressine aussi d'ailleurs, comme vous le verrez. Alors, tout d'abord, le système apéline, récepteur de l'apéline, est exprimé dans les vaisseaux. On trouve de l'apéline dans l'endothélium des petites artères de pratiquement tous les organes, poumons, reins, cœur, surrénal. L'expression est particulièrement importante en phase d'angiogénèse active, je n'y reviens pas. On trouve l'apéline dans les veines et les larges et les vaisseaux d'un certain calibre, type aorte, artère mammaire, artère radiale. En revanche, il y a peu ou pratiquement pas d'apéline dans les cellules musculaires lisses vasculaires. Le récepteur de l'apéline, l'APJ, se trouve exprimé dans l'endothélium et dans les cellules musculaires lisses vasculaires. Voilà ce qui est de la distribution qu'on a pu étudier par différentes techniques de biologie moléculaire ou de techniques protéiques. Dans le cœur maintenant, eh bien, dans le cœur, les artères coronaires expriment l'apéline et à moindre degré le récepteur dans l'endothélium, on trouve l'apéline et son récepteur dans les cellules musculaires des coronaires. Alors, ce qui est important, c'est dans les myocytes cardiaques. Je trouve qu'il n'y a pas énormément d'expérience et que ça vaudrait la peine de regarder ça un peu plus dans le détail, in vivo, in vitro, même des techniques d'expression, à la mesure où on a quelques articles qui montrent que l'expression de l'apéline serait particulièrement importante au niveau des oreillettes et plus importante dans les oreillettes que dans les ventricules. Ceci d'ailleurs est variable en fonction de la physiopathologie et on observe surtout au début de l'insuffisance cardiaque une importante expression de l'apéline. Le récepteur de l'apéline se trouve aussi exprimé, mais relativement modestement, dans les myocytes cardiaques. Et on pense que, comme pour les vaisseaux, il existerait une action paracrine et autocrine de la pénine dans le cœur. Donc, vraiment une expression importante dans le système cardiaque et vasculaire. Alors, un certain nombre d'expériences récentes nous le montrent avec, par exemple ici, dans cette étude de développement réalisée par Ashley et collaborateurs, où ils ont regardé l'expression concomitante, en quelque sorte, de la pénine et de son récepteur APJ, où proportionnellement, il y a une élévation parallèle de ce système au cours de la période embryonnaire, en fin de vie embryonnaire, et période adulte, à 40 semaines par exemple. Ceci peut être mis en évidence, encore une fois, par ARN messager ou par études immunohistochimiques. On peut voir dans les vaisseaux intramyocardiques humains l'expression de la pénine de façon très très nette dans le cœur, donc, et à beaucoup moindre quantité, le récepteur APJ au niveau des cellules endothéliales des vaisseaux intramyocardiques. Dans les cardiomyocytes, on observe l'expression du récepteur de la pénine, mais ce n'est pas extraordinairement flagrant. Dans les cellules endothéliales de l'endocarde, on observe aussi l'expression de la pénine. En fait, la meilleure manière d'être certain que ce système est non seulement exprimé mais opérationnel, c'est de stimuler le système in vitro et in vivo. Alors là, je récapitule l'action de la pénine sur les vaisseaux in vitro. In vitro, ce qu'on observe, c'est une vasorelaxation, mais elle est dépendante de l'endothélium, ce qui est tout à fait typique d'un système qui est médié par la production de NO. En effet, la pénine qui est vasorelaxante est en fait vasoconstrictrice lorsque on applique la pénine sur une veine saphène qui est dénudée de son endothélium. Il n'y a plus d'endothélium et à ce moment-là, il y a un effet direct sur le récepteur APJ des cellules musculaires vasculaires de la saphène et un effet vasoconstricteur. Donc, il y a une production de NO aussi qui a été montrée in vitro dans les uvèques et aussi dans l'aorte isolée de rat. Et il a été montré toujours in vitro sur les cellules musculaires vasculaires qu'il y avait une action de la pénine sur son récepteur avec phosphorylation de la chaîne légère de la myosine, qui est une des bases de la contraction des cellules musculaires vasculaires. In vivo, j'ai déjà insisté sur le fait que la pénine avait un effet hypotenseur modeste et transitoire. Alors là, il faut quand même savoir que cet effet est variable peut-être suivant les espèces, in vivo. Puisqu'il y a eu une étude récente qui montre que chez le mouton, il y a eu un effet hypotenseur puis hypertenseur. Et ceci peut rappeler, c'est peut-être pour ça que je suis parasité de temps en temps avec le mot endothéline, avec ce qui se passe avec l'endothéline. Avec l'endothéline, il y a certains territoires vasculaires où vous avez une vasodilatation puis une vasoconstriction, une hypotension brève suivie d'une hypertension. C'est ça ce qu'on observe avec l'endothéline. Et donc, chez le mouton, vous avez exactement ces deux phases. Alors, est-ce que ceci est lié au fait d'une balance particulière des récepteurs de la pénine dans l'endothélium et surtout dans les cellules musculaires vasculaires, suivant les territoires, c'est possible. Quel est l'effet chez l'homme? Nous ne savons pas. À ma connaissance, personne n'a administré de la pénine chez l'homme, or un petit peptide de 13 acides aminés, ça pourrait être extrêmement important d'étudier chez l'homme, en investigation clinique contrôlée, l'effet d'une dose unique d'apéline. Dans certains territoires vasculaires, il y a des techniques pour mesurer les variations de débit, etc., qui sont tout à fait réalisables chez l'homme. L'apéline entraîne une réduction de la pression ce qu'on appelle le mean circulatory filling pressure, la pression circulante moyenne, et on pense que c'est un vasodilatateur veineux au moins aussi puissant, sinon plus puissant que l'hydralazine, ainsi qu'un dilatateur artériel. Il y a une activation réflexe de la fréquence cardiaque par mise en jeu du baroréflexe, je vous l'ai montré d'ailleurs tout à l'heure, et comme je l'ai indiqué, une baisse modeste lorsqu'on administre pharmacologiquement de la pénine dans le modèle de ragétiquement hypertendu. Donc voilà en quelques mots résumé l'action in vitro et in vivo de la pénine. Alors comment peut-on expliquer ceci? Eh bien, tout dépend effectivement de l'action de la pénine sur les cellules endothéliales et les cellules musculaires lisses vasculaires. S'il n'y avait que des cellules musculaires lisses vasculaires avec leur récepteur de la pénine, eh bien le résultat net serait une vasoconstriction. Lorsque la pénine agit sur le récepteur endothélial, la signalisation est telle qu'il y a production de NO, diffusion dans la couche de cellules musculaires lisses vasculaires sous-jacentes et vasodilatation. C'est un peu plus dans le détail ce que je voudrais dire ici, à savoir que soit la pénine circulante, ce sera une action à ce moment-là de type endocrinienne, soit la pénine synthétisée dans la cellule endothéliale, à ce moment-là ce sera une action paracrine ou autocrine, peuvent diffuser au niveau des cellules musculaires lisses sous-jacentes et entraîner une vasoconstriction par inhibition de l'adénylate cyclase, par stimulation de la phospholipase C, augmentation du calcium intracellulaire et vasoconstriction. En revanche, il est tout à fait possible aussi pour la pénine produite à l'intérieur ou venant de l'extérieur de la cellule endothéliale, d'agir sur la cellule endothéliale elle-même. À ce moment-là, ça va être une action autocrine. À ce moment-là, par le même signalisation des protéines G, production de NO par phosphorylation au préalable de la NO synthase endothéliale, qui va donc être activée, et le NO va diffuser et donc stimuler la formation de GMP cyclique à partir du GTP, et on sait que ceci va entraîner une vasodilatation. Autrement dit, la même molécule, suivant qu'elle existe ou non, une importante signalisation dans les cellules endothéliales, va être vasoconstrictrice si, disons, il y a une prédominance d'effet au niveau des cellules musculaires lisses vasculaires, ou va être vasodilatatrice s'il y a une prédominance de l'importance du récepteur de la pénine dans les cellules endothéliales, une production efficace de NO, et à ce moment-là, au niveau des cellules musculaires lisses vasculaires, le résultat net, c'est une vasodilatation. C'est pour ça qu'il était très important de voir d'abord ce qu'il en était chez l'animal entier. Et donc, chez l'animal entier, je crois que tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a un effet modeste, mais indiscutable, d'hypotension, en tout cas chez la souris, chez le rongeur, chez le rat. Et donc, vraisemblablement, le deuxième schéma est le bon pour ce qui concerne la pression artérielle. Voyons ce qu'il en est au niveau du cœur. Alors, in vitro, la pénine, sur le modèle de cœur perfusé isolé de rat, a une action inotrope positive puissante, qui implique, on va le voir un peu plus dans le détail, l'activation de la phospholipase C, de la protéine kinase C, et secondairement des échangeurs sodium-proton et de l'échangeur sodium-calcium. Il y a d'autre part, toujours in vitro, une démonstration d'un raccourcissement des sarcomères isolés de cœur normal et en insuffisance cardiaque par la pénine. Donc une action purement in vitro, cette fois-ci au niveau cellulaire. Et enfin, on peut montrer qu'il y a une diminution de l'ARN messager de la pénine lorsque, in vitro, dans les systèmes particuliers d'étirement de cellules, eh bien, on étire les myocytes ventriculaires néonataux. Il y a à ce moment-là une baisse de la production de la pénine. Ceci est intéressant parce que peut-être à rapprocher de ce qu'on observe dans l'insuffisance cardiaque, où progressivement il y a une baisse de la production d'apénine. In vivo, Alors, l'apénine se comporte comme une molécule particulièrement intéressante parce qu'elle va diminuer la précharge, donc la charge de remplissage du ventricule, et la post-charge, celle qui est en aval de la chambre de chasse du ventricule gauche, et ceci via une dilatation artérielle et veineuse. On observe toujours in vivo, ce que l'on observe in vitro dans le cœur perfusé isolé, une élévation de la contractilité myocardique, une augmentation du débit cardiaque, indépendamment de la charge. Il y a ce qu'on appelle une augmentation de la réserve contractile du myocarde et du débit cardiaque sans hypertrophie cardiaque. Ceci est important. Au cours de traitement chronique, alors quand j'entends traitement chronique, chez la souris, c'est 15 jours ou 3 semaines de mini-pompe, d'administration, de l'apénine. Donc, tout ça, c'est de la pharmacologie, hein. Ce n'est pas de la physiologie. C'est de la pharmacologie. Mais enfin, c'est absolument indispensable pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, cette action inotrope positive in vitro et in vivo s'observe à la fois, d'ailleurs, sur le cœur sain et le cœur défaillant. Ce qui fait quand même de l'apénine une molécule particulièrement intéressante parce que ce serait, ou c'est, un agent inotrope positif qui possède à la fois une action dilatatrice sur les territoires artériels et veineux, diminuant la pré- et la post-charge, et qui élève l'assistance ventriculaire de façon parallèle à la baisse de la précharge cardiaque. Autrement dit, l'apénine serait une molécule intéressante parce que douée à la fois de cet effet inotrope positif et de diminution des pré- et post-charges. Alors, l'apénine, effectivement, pour entrer un peu dans le détail, dès 2002, l'équipe de Sogody et collaborateurs montrait une action dose-dépendante de l'effet inotrope positif de l'apénine sur cœur isolé perfusé de rat, l'apénine 16. Au passage, la plupart des études que je vous montre in vitro et in vivo ont trait à l'apénine 16 ou l'apénine 13 et je dirais grosso modo, pour faire simple, les résultats sont réellement similaires. Le point intéressant ici, c'est que la courbe dose-réponse est obtenue avec des doses faibles, subnanomolaires ou allant jusqu'à 10 nanomolaires pour l'apénine avec une dose efficace 50% de 33 picomolaires. L'endothéline et l'adrénoméline, qui sont aussi des agents inotropes positifs puissants, ont une dose efficace de 50 picomolaires. Donc l'apénine se situe tout à fait dans, l'efficacité de ces agents inotropes positifs bien connus. Quand on regarde l'effet de l'apénine par rapport à l'effet de l'isoprénaline, l'isuprel qui est un agent puissamment inotrope positif, il y a une différence qui est nette. L'isuprel entraîne une augmentation de la tension développée qui est extrêmement importante mais extrêmement brève, alors que l'effet de l'apénine se développe progressivement avec le temps et reste soutenu. Passage plus soutenu que l'effet hypotenseur préalablement indiqué. Et ceci de façon assez comparable avec l'endothéline et l'adrénoméduline. Et enfin, l'augmentation de la contractilité est bien mise en évidence, toujours in vitro, par l'augmentation de la DP, DT max en fonction de la précharge. Alors, quel est le mécanisme de cet effet inotrope positif de l'apénine dans le cœur isolé de rat? C'est-à-dire quelle est la signalisation mise en jeu? On pense qu'il s'agit réellement d'un effet spécifique et non pas médié, par exemple, par l'angiotensine 2, l'endothéline ou le système adrénergique, dans la mesure où les bloqueurs du système renin-angiotensine, les antagonistes du récepteur de l'endothéline ou les alpha-bloquants n'ont aucun effet sur l'effet inotrope positif. Que d'autre part, l'administration de LNAM n'a pas d'effet sur l'effet inotrope positif. Donc c'est un effet indépendant qui implique vraisemblablement la phospholipase C-bêta, car on peut inhiber in vitro 70% de l'effet de l'apénine par un inhibiteur relativement spécifique de la phospholipase C. On peut inhiber aussi de 80% cet effet inotrope positif par la staurosporine, qui est un inhibiteur de la PKC, mais pas très spécifique, c'est vrai. Et enfin, il est possible qu'il y ait une contribution des échangeurs sodium-proton et de l'échangeur sodium-calcium. Pourquoi ? D'abord parce que la PKC va phosphoryler lorsqu'elle est activée le sodium-proton et on inhibe en partie l'effet neutre positif par un inhibiteur de cet échangeur sodium-proton, un dérivé de l'aminoride. Et d'autre part, l'augmentation du sodium intracellulaire va activer en retour l'échangeur sodium-calcium. Et là encore, on peut diminuer l'effet neutre positif par un bloqueur de cet échangeur. C'est ce que résume en quelque sorte pour passer maintenant à l'in vitro et continuer sur l'effet de la péline in vitro, sur l'étirement mécanique que je vous ai signalé au départ. Il s'agit simplement de cultures de myocytes ventriculaires de rats à la naissance, que l'on soumet donc à cet étirement mécanique, et on mesure à ce moment-là un certain nombre de messagers qui nous intéressent. Alors, dans ces conditions, il y a une augmentation des peptides natriurétiques, l'ANP, le BNP qui est indiqué ici, mais le taux de messagers de la péline baisse. Ça, encore une fois, c'est un point intéressant. Il y a une régulation croisée, en quelque sorte, de la péline et des peptides natriurétiques ANP et BNP. In vivo, qu'en est-il ? In vivo, cette fois-ci, sont des techniques sophistiquées, je dirais, d'échographie et d'imagerie par résonance magnétique chez la souris, au cours soit de l'administration aiguë, soit de l'administration chronique d'apéline. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer tout à fait dans les grands détails, mais simplement pour dire que l'administration aiguë d'apéline n'améliore pas parce que la souris est normale, mais s'accompagne d'une augmentation de la contractilité myocardique avec accélération de la fréquence cardiaque et diminution de l'aire ventriculaire gauche en fin de diastole, donc c'est un effet inotrope positif classique, et que l'administration chronique d'apéline aboutit là aussi à une augmentation de la vitesse, ce qu'on appelle la vitesse de raccourcissement circonférentiel, et donc une augmentation aussi du débit cardiaque. Et là, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'après 15 jours de perfusion de doses importantes au passage, quand même 2 mg par kilo par jour par mini-pompe d'apéline, il n'y avait pas d'hypertrophie cardiaque, alors même qu'on avait un effet inotrope positif soutenu. Donc c'est un point intéressant qui démarque en quelque sorte l'apéline, sans doute, d'un certain nombre d'autres agents inotropes positifs avec un effet vasodilatateur artériel et veineux. Donc, encore une fois, le message à retenir, c'est que la péline réduit la pré- et la post-charge du ventricule gauche, augmente la réserve contractile sans hypertrophie et que ceci pourrait représenter un profil hémodynamique particulièrement bénéfique avec quand même beaucoup de points d'interrogation. Alors, ceci est vrai dans le cœur normal, mais c'est vrai aussi au cours de l'insuffisance cardiaque. Dans une étude publiée relativement récemment, l'équipe de Berry montre qu'in vivo, chez le rat normal et chez le rat en insuffisance cardiaque générée par la ligature de la circonflexe antérieure chez le rat, eh bien, on observe que la péline va restaurer en quelque sorte la contractilité myocardique. Chez ces rats, vous avez une baisse de la DPD max, donc baisse des indices de contractilité du ventricule gauche, bien sûr, et donc la perfusion d'apéline pendant un temps bref, à vrai dire, va augmenter l'ADP des max dans le cœur normal et pathologique. C'est ça le point intéressant, avec une augmentation du volume d'éjection sans modification du volume ventriculaire gauche en fin de diastole. Donc un effet inotrope positif, bénéfique à la fois chez la souris normale et chez la souris en insuffisance cardiaque. Pour résumer en quelque sorte encore une fois, cet effet particulier de l'apéline, je dirais que cet effet inotrope positif s'observe en l'absence des modifications des canaux calciques qui dépendent du voltage. Donc c'est un mécanisme d'action réellement médié, semble-t-il, par l'activation du récepteur de la apelline qui se trouve au niveau des cardiomyocytes. Il y aurait une augmentation de la sensibilité de ces cardiomyocytes au calcium intracellulaire, plutôt qu'une véritable élévation du calcium intracellulaire. En effet, donc après cette stimulation du récepteur, il y a stimulation de la phospholipase C, de la protéine kinase C. Comme je l'ai indiqué, il y a activation secondaire de l'échangeur sodium-proton. Il y a alcalinisation intracellulaire, ce qui va déclencher l'échangeur sodium-calcium du fait de cette modification du l'échangeur sodium-proton, et il va y avoir une augmentation du calcium intracellulaire avec sensibilisation au niveau du sarcomère, vraisemblablement des myocytes à cette élévation discrète du calcium intra-sarcoplasmique. Quel est maintenant l'effet des différents fragments d'apelline dans cette voie-là? Est-ce que tous ces fragments 36, 17, 13 ont un effet similaire ou pas? Rien n'est connu. Est-ce qu'en chronique, il y a une désensibilisation? Rien n'est connu non plus, c'est possible. C'est le cas en tout cas avec d'autres agents inotropiques. Donc tout ceci reste à étudier. Alors maintenant, je voudrais étudier un petit peu dans le détail ce qui se passe avec une souris étudiée par d'autres auteurs que l'équipe japonaise que j'avais mentionné antérieurement, qui avait publié son article en 2004. Là, il s'agit d'un travail qui a été réalisé sous la conduite de Joseph Pettinger, qui a pas mal travaillé sur le système rénine-angiotensine, notamment l'ACE2, une isoforme de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, et qui a rapporté tout à fait en fin d'année, en décembre, un article dans Circulation Research où il a repris l'inactivation du système apelline, mais cette fois-ci, non pas du récepteur, mais de l'apelline elle-même. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était l'inactivation du récepteur APJ. Là, c'est le récepteur, je veux dire, c'est le ligand qui est inactivé. Au passage, le gène se trouve situé sur le chromosome X, donc c'est relativement simple de générer des animaux complètement knock-out, puisque les mâles hétérozygotes seront dépourvus de tout gène codant pour l'apelline. Alors, première chose, il n'y a pas d'anomalie apparente chez les animaux qui naissent, semble-t-il, sans souci. Ces animaux ont un poids corporel normal, une prise normale de nourriture et d'eau, vous allez le voir, et il n'y a pas à la naissance d'anomalie cardiaque majeure, et ils ont étudié ceci par l'échographie. Ils ont mesuré chez la souris les taux des peptides cardiaques, qui sont des bons indicateurs d'une éventuelle insuffisance cardiaque, l'ANP et le BNP. Bien. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à 6 mois, il faut poursuivre l'expérience, qui n'avait pas été réalisée avec l'inactivation du récepteur APJ, ils observent une altération de la fonction contractile cardiaque. Les animaux développent une insuffisance cardiaque à type de dysfonction systolique. Mais il n'y a pas d'anomalie histologique patente au niveau du cœur. Autrement dit, c'est une anomalie plus observée sur le plan, je dirais, des mesures échographiques, en tout cas au départ, que morphologique. Et chose importante, ils améliorent les animaux par une perfusion pendant 15 jours d'apelline 1-13. Et puis, ils ont créé une insuffisance cardiaque expérimentale en créant ce qu'on appelle un bandage aortique, c'est-à-dire que on met en quelque sorte une constriction au niveau de l'aorte à la sortie du ventricule gauche. Et donc, à ce moment-là, les animaux sont obligés d'avoir une fonction cardiaque accrue pour pouvoir lutter contre la post-charge. Et ils observent, au fond, là aussi, que l'apelline est extrêmement importante. Les animaux qui sont dépourvus d'apelline développent une insuffisance cardiaque qui est beaucoup plus notable que les animaux sauvages. Donc deux arguments, un argument naturel, le vieillissement, et un argument expérimental, ce qu'on appelle bagage aortique. Et donc, il conclut qu'il y a un rôle probable de la pénine dans le maintien d'une contractilité cardiaque qui doit s'adapter au fur et à mesure du vieillissement. On est inégaux là-dessus. Le vieillissement pour la surouille, c'est considéré à 6 mois. Et en cas de surcharge de pression. Et puis, il propose que finalement, dans l'insuffisance cardiaque, expérimentalement, mais chez l'homme, on le verra, il pourrait y avoir une augmentation transitoire de la pénine, qui en quelque sorte ferait tout pour pouvoir récupérer une fonction systolique normale, et qu'avec le temps, malheureusement, le taux d'apénine s'écroule, et à ce moment-là, il pourrait y avoir un développement plus rapide ou favorisé de l'insuffisance cardiaque. C'est un peu finaliste ce que je vous montre, mais ça résume en quelque sorte les expériences que je voudrais vous détailler un petit peu. Avant de détailler ces expériences, j'ai lu attentivement le papier que je vous ai signalé en début de cours sur les animaux dépourvus du gène de la pénine qui vient d'être publié dans Embo Journal par nos collègues japonais. Ce qui est surprenant, donc il parle d'animaux à pénine moins. J'ai essayé de regarder dans le matériel et méthode d'où venaient ces animaux. Est-ce que ce sont les animaux déjà utilisés par d'autres ou qu'ils ont généré eux-mêmes? Ça n'est pas clair. Et ça, on a l'impression à lire l'article que ce sont les auteurs qui ont généré leurs propres animaux. Dans cet article, ils disent que les animaux ont des anomalies, qu'il y a un certain nombre d'animaux qui naissent sans yeux. Alors ça, c'est peut-être quelque chose, c'est très surprenant, qui n'a rien à voir avec l'inactivation génique, mais qu'il y a un certain nombre de morts néonataux, etc. Donc il y a quand même, au passage, dans ces phénotypes, des variations qui peuvent être liées, au passage, à la variation des souches utilisées. Et surtout, de savoir, il est très important de savoir dans ce type d'expérience, et notamment dans celle-là, si on a obtenu des animaux à fond génétique stable. Ceci est le cas ici. C'est sans doute, je ne sais pas pour les autres animaux que je viens de vous signaler, ceux des japonais. Bien. Alors, nous allons voir que, tout d'abord, et ceci est important pour le cours de la semaine prochaine, que l'absence d'apénine, l'absence de gènes codant pour l'apénine, ne se traduit pas par des anomalies de la prise de boisson chez les animaux par rapport aux animaux sauvages. C'est-à-dire qu'on les met en restriction hydrique pendant 40 heures et apparemment, la prise de boisson, la perte de poids, puis la prise d'eau qui va être consécutive à l'absence de prise d'eau, à la restriction hydrique, va être similaire chez les animaux normaux et chez les animaux KO. D'autre part, quand on soumet ces animaux à un régime hypercalorique, pendant quand même 15 semaines, eh bien la prise de poids des animaux sauvages et des animaux KO est similaire. Autrement dit, il n'y a pas sur ces paramètres là, d'effet de l'inactivation du gène de la pénine. Quand on se place à quelques mois après la naissance, disons jusqu'à 3-6 mois, il n'y a pas non plus d'anomalie patente sur la morphologie cardiaque. Et même à 12 mois, le point intéressant, c'est que le rapport poids du cœur sur poids corporel est similaire chez les animaux sauvages et chez les animaux KO. Et donc, si on voulait rapidement regarder si ces animaux étaient malades, les animaux KO, eh bien, on ne pourrait pas se fier à cela, pas plus qu'on pourrait se fier à la morphologie cardiaque qui est similaire chez les KO par rapport aux sauvages. Et enfin, la pression artérielle basale est similaire dans les deux groupes d'animaux, sauvages et KO. Au passage, il note qu'il n'y avait pas d'effet antagoniste de l'angiotensine 2, comme ceci avait été rapporté par les collègues japonais Ishida et collaborateurs. Bien. Qu'est-ce qui se passe à 6 mois? À 6 mois, quand on regarde par mesure télémétrique et non pas sphygmomanométrique, la fréquence cardiaque et la pression artérielle, on n'observe aucune différence significative. C'est-à-dire que les animaux ont un rythme nictéméral comme chacun d'entre nous, sauf que eux, ce sont les animaux de la nuit et nous du jour, il n'y a pas de modification du rythme nictéméral et les valeurs sont similaires. Il y a une petite tendance à la baisse de la pression artérielle, le rythme nictéméral est conservé, mais les animaux sauvages ont une petite baisse de la pression artérielle, mais qui n'est pas significative. C'est intéressant quand même, cette petite baisse de la pression, alors même qu'ils n'ont pas d'apnée, qui est hypotensive, parce que cette petite baisse de la pression peut être liée à déjà un débit cardiaque altéré, et donc un certain degré d'insuffisance cardiaque. Ce qui est plus important, bien sûr, c'est les mesures d'échocardiographie qui ont été réalisées. Eh bien, on observe une baisse de la contractilité cardiaque à 6 mois avec différents index, comme par exemple la fraction de raccourcissement. On observe une diminution de la fraction d'éjection. On observe aussi une augmentation de la vitesse de raccourcissement du circonférentiel du myocarde. Et donc, on peut dire qu'il y a, d'une manière générale, une baisse de la contractilité cardiaque qui est marquée chez ces animaux dépourvus d'apnée. Et que d'autre part, on peut restaurer, par un traitement de 2 semaines, l'amélioration, on peut restaurer la fonction contractile myocardique chez les animaux par donc cette administration d'apnée, montrant ainsi la réversibilité. Si on mesure maintenant ces mêmes paramètres, mais en cas de surcharge de pression, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on va avoir le bandage aortique qui va entraîner cette post-charge accrue, on observe l'augmentation de la apnée chez les animaux sauvages, comme je l'ai indiqué au départ, de l'insuffisance cardiaque, il y a bel et bien une augmentation du taux d'apnée. Évidemment, les animaux qui ont apnée moins n'ont pas d'apnée cardiaque. Ce que l'on observe, c'est l'augmentation du taux de BNP chez les animaux sauvages après bandage aortique, c'est normal. Une augmentation qui est aussi importante et même plus importante chez les animaux apnée KO, en tout cas pour le BNP. On observe aussi chez les animaux qui ont le bandage aortique et qui sont dépourvus de l'apnée, une augmentation plus importante du rapport du poids du cœur sur le poids corporel, indiquant ainsi un certain degré quand même d'hypertrophie cardiaque, encore qu'elle ne soit pas majeure. Donc, en un mot, qu'il s'agisse d'animaux vieillissants à 6 mois, ou qu'il s'agisse d'animaux qui sont soumis à des contraintes sévères de fonction cardiaque par le bandage aortique, eh bien, la présence d'apnée est importante, semble-t-il, puisque en l'absence d'apnée, on observe une insuffisance cardiaque sur des critères échocardiographiques et morphologiques, encore une fois, les critères morphologiques sont beaucoup moins impressionnants que ce qu'ils ne pourraient être, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypertrophie cardiaque majeure chez les animaux en l'absence d'apnée. La conclusion de cette étude, qui est importante, c'est que l'absence d'apnée conduit à une insuffisance cardiaque, mais que dans des circonstances bien définies, au cours du vieillissement et d'autre part en cas de surcharge de pression. Alors, ceci est en faveur, je dirais, d'un rôle de l'apnée dans la performance cardiaque au cours de ce qu'on appelle au fond le stress cardiaque chronique, le vieillissement ou la surcharge de pression, et que l'élévation compensatoire de l'apnée dans l'insuffisance cardiaque pourrait avoir un effet bénéfique, mais qu'en cas de surcharge de pression trop prononcée, trop longue, soutenue, à ce moment-là, on observe une baisse du taux d'apnée, on va voir pourquoi peut-être, et que ceci pourrait contribuer au développement de l'insuffisance cardiaque dans la mesure où on perd l'effet bénéfique et notre positif de l'apnée. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire baisser le taux d'apnée au cours de l'insuffisance cardiaque congestive expérimentale. Eh bien, il a été montré qu'il existe un antagonisme entre le système renine-angiotensine et l'apéline en termes d'expression du taux d'apéline. Et c'est ainsi que le rôle de l'activation du système renine-angiotensine, qu'on observe invariablement dans l'insuffisance cardiaque, pourrait contribuer à la baisse de l'apéline que l'on observe. Au passage, ceci est conforté par le fait qu'il y a une baisse de l'apéline lorsque l'on traite des animaux en insuffisance cardiaque par des inhibiteurs du système renin-angiotensine. Dans une expérience que je ne vais pas vous rapporter ici aujourd'hui, les auteurs ont créé une insuffisance cardiaque expérimentale qu'ils ont traitée par différents médicaments, différents produits, et il y a à ce moment-là, au départ de l'insuffisance cardiaque, une élévation du taux d'apéline tissulaire et plasmatique, et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les bloqueurs du récepteur de l'angiotensine abaissent les taux tissulaires et plasmatiques d'apéline. D'autre part, je l'ai indiqué tout à l'heure, les cardiomyocytes, lorsqu'ils sont soumis à un stress mécanique in vitro, abaissent l'apéline. Au cours de l'insuffisance cardiaque, à un certain moment donné, il y a dilatation qui commence à se produire, et donc, est-ce que ceci peut intervenir dans l'abaissement du taux de l'apéline. Donc, en fin de compte, ceci est peut-être important pour expliquer la baisse progressive de l'apéline au cours de l'insuffisance cardiaque, et peut-être cette baisse va-t-elle contribuer à l'insuffisance cardiaque. J'ajouterai une dernière chose, c'est que si l'apéline réellement joue un rôle dans l'angiogénèse active, dans des épisodes particuliers comme par exemple le stress cardiaque avec néovascularisation, on peut se poser la question de savoir si l'absence de néoangiogénèse dans cette condition, du fait de la baisse de l'apéline, ne pourrait pas elle aussi contribuer, pour partie au moins, à l'insuffisance cardiaque. Alors qu'en est-il chez l'homme? Alors chez l'homme, je voulais terminer par ça, mais avant, vous dire que on a quand même des arguments expérimentaux pour dire que pharmacologiquement, l'apéline est capable, dans l'insuffisance cardiaque expérimentale, d'avoir un effet bénéfique dans l'infarctus du myocarde chez le rat. Je l'ai montré aussi indirectement chez la souris qui est dépourvue d'apéline. Mais il y a une autre expérience qui a été réalisée qui va dans le même sens, que la souffrance myocardique induite chez le rat par injection sous-cutanée d'isuprel, on observe dans ces conditions une baisse des indices de contractilité du ventricule gauche, en même temps que l'on observe une chute des taux d'ARN messager codant pour l'apéline et son récepteur dans le tissu cardiaque ventriculaire et auriculaire, ainsi qu'une baisse de l'apéline plasmatique. Et on peut protéger l'animal de cette insuffisance cardiaque expérimentale particulière par l'administration d'apéline durant 5 jours, avec un effet donc kinotrope positif que l'on peut reproduire d'ailleurs aussi en aigu par administration d'apéline. Tout ceci a été observé chez l'animal in vivo. Encore une fois, qu'en est-il chez l'homme qui nous intéresse naturellement particulièrement? Alors chez l'homme, une étude originale a été publiée par le groupe de Chen dans Circulation il y a quelques années, on s'y réfère souvent. L'étude est originale dans la mesure où ils ont étudié les gènes exprimés dans le ventricule gauche avant et après transplantation cardiaque. Alors comment peut-on faire une biopsie cardiaque chez quelqu'un qui va avoir ultérieurement une transplantation cardiaque? Bien, c'est parce que, en attendant le cœur donneur pendant un certain temps, ou pour restaurer surtout une fonction cardio-circulatoire correcte, on va implanter des appareils qui vont faciliter le retour à une circulation, à un état circulatoire correct. C'est ce qu'on appelle les Left Ventricular Assistance Device. Je m'excuse mais comme ça a été inventé par les Américains, on n'a pas, enfin, je ne connais pas l'équivalent exact en français. Le point intéressant, c'est que on va implanter cela de façon chirurgicale, et donc à ce moment-là, on peut prendre un petit bout de tissu cardiaque, et puis à regarder juste avant la transplantation, le sujet étant en bien meilleur état, il a récupéré une fonction cardio-circulatoire acceptable. On va donc comparer les gènes exprimés avant, après. D'accord ? À ce moment-là, ce qu'ils ont observé dans les gènes exprimés, c'est qu'il y avait une baisse importante des peptides natriurétiques. Après transplantation, après restauration d'une bonne fonction cardio-circulatoire, les facteurs natriurétiques BNP, ANP, ça baisse. En revanche, ce qui était très marquant, c'est l'élévation du gène du récepteur de l'apénine, qui était le gène le plus augmenté après transplantation cardiaque. Le point intéressant aussi, c'est que cette étude a été faite de façon, je dirais, aveugle, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est une étude de transcriptome où on part sans idée préconçue du gène que l'on va trouver comme augmenté. Donc là, je pense que c'est un argument intéressant, parce qu'il n'y a pas de biais, en quelque sorte. Et il montre par ailleurs qu'il y a une élévation du taux d'apénine par un essai enzymo-immunologique après assistance circulatoire. Donc on restaure en quelque sorte, avec une bonne fonction cardio-circulatoire, on restaure en quelque sorte un taux d'apénine, montrant bien que l'apénine était basse du fait de l'insuffisance cardiaque et que l'amélioration, même rapide, hein, de la fonction cardio-circulatoire permet une réélévation de la apénine immunoréactive après donc ce système d'assistance circulatoire. Alors, qu'en est-il naturellement dans le plasma ? Alors, dans le plasma, je dois dire tout de suite, et je ne pense pas que ce soit Catherine Orens qui me contredira, que le dosage de la apénine est difficile. Et que quand on regarde dans la littérature, les valeurs varient entre 1 à 100. C'est tout dire. Moi, j'ai connu ça avec la bradykinine, où les valeurs étaient 1000 fois supérieures au départ de ce qu'elles sont sans doute en réalité. Donc, ce que je vous montre aujourd'hui est à prendre, non pas avec précaution, mais avec critique. Critique parce qu'il faut voir exactement quelle est la méthodologie. La méthodologie suivie habituellement, c'est We have taken as the recommendations of the manufacturer. To measure, etc. Ce qui veut dire en clair qu'on ne s'est pas trop posé de problème, on a un kit, on vous le vend, on l'applique, sans savoir exactement ce que fait le kit. Bon, je dis ça parce que ici, ce n'est pas ce qui se passe. Ici, on mesure l'apéline et je vous montrerai la semaine prochaine de façon rigoureuse après séparation chromatographique avec un anticorps bien défini qui a été fait ici. Donc, c'est vraiment très important parce que vous allez voir des résultats contradictoires dans l'insuffisance cardiaque qui ne s'explique pas parce que les malades ont été mal classés, mais tout bêtement parce que les mesures n'ont pas été suffisamment critiquées au départ. Donc voilà ce qui se passe dans cet article, taux entre guillemets normaux d'apénine immunoréactive 4 nanogrammes par ml, je pense que ça a beaucoup baissé depuis. Enfin bref, toujours est-il, ce qui était quand même intéressant, c'est que l'insuffisance cardiaque débutante, suivant une classification qui est faite par la New York Heart Association, eh bien, dans les premiers stades d'insuffisance cardiaque, le taux d'apénine augmente et s'effondre, ou revient vers des valeurs beaucoup plus basses en tout cas, en cas d'insuffisance cardiaque sévère, voire complètement décompensée, c'est-à-dire les stades 3-4. Et ceci est parallèle à la dysfonction ventriculaire gauche. Alors voilà, on a effectivement des flèches un peu dans tous les sens. Quand on regarde une revue toute récente qui est sous presse de Japp et Newby qui montre que quand même, d'une manière assez générale, le taux d'apénine est abaissé, qu'il peut être élevé puis abaissé ou voire normal. Alors, non seulement il faut savoir mesurer l'apénine, mais en plus il faut savoir classer correctement les malades. C'est quand même pas très difficile de savoir si quelqu'un a une fonction cardiaque normale ou pas. Il y a des échocardiographies qui sont faites pour cela, et la fraction d'éjection ventriculaire gauche est considérée comme un bon test d'insuffisance cardiaque sur le plan fonctionnel. Quand on a moins de 30%, ça ne va pas bien. Quand on a 50-60%, on est dans les zones normales. Or, vous voyez ici qu'il y a des variations considérables des fractions d'éjection systolique. Autrement dit, franchement, je trouve que tout le travail est à faire. C'est-à-dire qu'il est important de savoir si oui ou non La pénine est abaissée dans l'insuffisance cardiaque sévère ou décompensée. Il est important de savoir si, comme il semble être indiqué dans ces patients avec une hypertrophie ventriculaire gauche, une cardiomyopathie primitive dilatée, mais sans insuffisance cardiaque patente, puisque vous voyez, ils ont des fractions d'éjection en moyenne à 40-42%. Il est donc important de savoir ce qu'il en est exactement. Or, nous ne pouvons pas répondre clairement aujourd'hui, à mon avis, à cette question-là. Alors, c'est très important, parce que si on pense un jour que l'apéline peut faire un produit intéressant en thérapeutique, il faut savoir aussi ce qui se passe en pathologie. Alors justement, pour terminer par cela, je dirais que, donc en pathologie, disons que, retenons que expérimentalement, et peut-être chez l'homme, l'apéline au cours de l'insuffisance cardiaque dans ses premiers stades serait élevée. D'ailleurs, peut-être qu'une partie de l'apéline circulante chez l'homme serait d'origine atriale. Qu'au cours de l'insuffisance cardiaque décompensée, il est vraisemblable qu'on observe une baisse claire des taux plasmatiques d'apéline, en tout cas chez l'animal et peut-être aussi chez l'homme, et que, en tout cas, le travail que je vous ai indiqué tout à l'heure est intéressant en montrant ce parallélisme des variations des taux d'apéline avec la correction de l'insuffisance cardiaque après assistance circulatoire. L'expression élevée dans le myocarde d'apéline et de son récepteur chez les patients d'insuffisance cardiaque mériterait d'être étudiée. L'étude que je vous ai montrée avant et après assistance circulatoire est unique. Et donc, il y a à l'heure actuelle des banques de tissus myocardiques où ce type d'expérience, c'est-à-dire de mesure des messagers, pourrait être faite. Le problème qu'on a toujours naturellement là, c'est d'avoir le tissu contrôle. La beauté, si je puis dire, quand même, du travail que je vous ai rapporté, de Chen et collaborateurs dans Circulation, c'est qu'ils avaient avant et après correction chez le même malade, ce qui n'a pas de prix. Et donc, les résultats sont difficiles à interpréter. Hétérogénéité des patients, difficulté du dosage. Quelle est l'importance de l'apéline circulante? Je vous ai beaucoup parlé d'action autocrine, paracrine. Et donc, est-ce que vraiment l'apéline circulante va avoir un effet endocrine par rapport à l'effet local de l'endocrinine de ce système? Et puis, alors, il y a une chose que personne ne discute, mais quand même fondamentale et qui me permettra d'embrancher sur le cours de la semaine prochaine, c'est que l'apéline, son taux plasmatique n'est pas uniquement fonction de l'état cardiovasculaire. Il est aussi fonction d'autres facteurs, comme par exemple le traitement. J'ai déjà dit que le traitement par le système renine-angiotensine, par les inhibiteurs du système renine-angiotensine, pouvait abaisser par lui-même les taux d'apéline. Or, il n'y a pas une insuffisance cardiaque en insuffisance cardiaque majeure qui ne reçoive un traitement par bloqueur du système renine-angiotensine. Ce serait littéralement une faute médicale. D'autre part, et c'est ça que je dirai la semaine prochaine, l'osmolalité joue, et même joue grandement. Or, les insuffisances cardiaques ont habituellement un état d'hyperstimulation de la vasopressine et donc un état de modification de l'osmolalité et plasmatique qui sont plutôt en hyponatrémie et ceci peut jouer sur les taux d'apénine plasmatique. Et donc, pour terminer, je dirais que ceci est vrai pour l'insuffisance cardiaque, mais aussi peut-être dans les affections respiratoires. Ici, le seul point que je voudrais faire, c'est sur l'hypertension artérielle pulmonaire. Dans l'hypertension artérielle pulmonaire, avec les mêmes réserves que j'ai faites antérieurement, eh bien, en dosant relativement spécifiquement à l'apéline 36, avec une absence de réaction croisée avec les deux autres fragments d'apéline circulante, eh bien, il y aurait une augmentation nette, mais voyez, variable quand même, du taux d'apéline plasmatique par rapport par rapport à des sujets contrôle qui sont indiqués ici. Là, les sujets contrôle sont indiqués ici, avec d'une part l'apéline et d'autre part le peptide natriurétique, et chez les patients en hypertension artérielle pulmonaire, il y a un abaissement du taux d'apéline plasmatique en même temps qu'il y a une augmentation variable du taux de peptide natriurétique. Donc voilà ce que je voulais dire. Et pour terminer, je voudrais terminer par l'intérêt thérapeutique de l'apéline en pathologie cardiovasculaire chez l'homme. Je crois que j'ai pas mal insisté dessus. Sur l'intérêt éventuellement théorique d'une absence d'hypertrophie cardiaque par administration à long cours, une cardioprotection lors de la souffrance myocardique aiguë et chronique, et j'anticipe un effet anti-vasopressine, peut-être aussi angiotensine de l'apéline, avec donc un intérêt à la restauration de la stimulation du système apéline, en sachant que, à l'heure actuelle, nous sommes un peu bloqués pour les inotropes positifs. C'est ainsi qu'il y a un effet modeste du peptide natriurétique B sur lequel on travaille depuis très longtemps à chercher une forme orale d'administration où ça n'a malheureusement pas réussi, puis d'une forme par perfusion d'une S-rétide qui, dans la science cardiaque aiguë, ne semble pas avoir un effet extrêmement bénéfique. Les sciences cardiaques aiguës réfractaires, il pourrait être intéressant d'avoir un effet d'un peptide natriurétique, et ce n'est pas le cas. Alors, il y a d'autres inotropes positifs, mais qui n'ont pas bonne réputation parmi les cardiologues, comme les agonistes bêta, les inhibiteurs de la phosphodiestérase. Ils ont été, les inhibiteurs de la phosphodiestérase, pour augmenter le taux d'ASP cyclique intracellulaire, etc., ont été bloqués. L'apéline aurait, par son effet de sensibilisation accrue des cardiomyocytes au calcium intracellulaire, un effet proche d'un autre inotrope positif qui s'appelle le lévocimendant, mais une étude clinique récente a été négative, ce qui fait qu'on peut considérer ça comme de bons pronostics pour l'apéline, ou au contraire, il faut être réservé. Toujours est-il, ce qui frappe quelqu'un qui étudie à fond l'apéline dans le domaine cardiovasculaire, c'est que nous devrions avoir des études cliniques au minimum. D'avoir une étude sur les effets régionaux et globaux de la perfusion d'apéline chez l'homme, c'est finalement un peptide qui est un peptide naturel, plutôt hypotenseur, à effet inotrope positif. Il est surprenant qu'on ait fait tant de travail sur la perfusion du peptide natriurétique auriculaire depuis très longtemps, ne pas pouvoir vous donner un élément de réponse à cette question importante est surprenant. Voilà. Je me rappelle très bien que lors des cours sur le cancer et l'angiogénèse ici, ces cours avaient abouti à une investigation clinique qui, à mon avis, était extrêmement importante, qui vient d'être publiée par Michel Azizi et ses collaborateurs dans le New England Journal of Medicine, montrant que l'administration d'un inhibiteur du VEGF entraîne chez tous les patients une discrète mais certaine élévation de la pression artérielle. J'avais montré aussi, plus exactement en discutant avec Catherine Lorenz et de nouveau Michel Azizi, je vous le montrerai la semaine prochaine, l'intérêt de faire une investigation clinique pour démontrer que les variations de l'osmolalité plasmatique chez l'homme entraînent des modifications du taux plasmatique d'apéline. Mon souhait, c'est que des études existent aussi un jour ou l'autre, prochainement, sur ce peptide ou ces peptides chez l'homme pour approfondir l'étude de la fonction cardiovasculaire. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.